Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrotopic, le podcast qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. Je suis Mariam Tamoussalang et ce qui va suivre est le troisième épisode d'une série féministe que j'ai problématisée, comme à mon habitude, depuis la perspective des Suds en général et des mondes africains en particulier. On va être très matérialiste et saisir la critique féministe à travers des enjeux économiques. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Guérin. Isabelle Guérin est socio-économiste, directrice de recherche à l'IRD. Elle est spécialisée dans l'économie politique et morale de la monnaie, de la dette et de la finance. Ses travaux actuels portent sur la financiarisation des économies en examinant comment la financiarisation produit de nouvelles formes d'inégalité et de domination, mais aussi des initiatives alternatives et solidaires. Elle a publié plusieurs ouvrages individuels et collectifs, j'en cite quelques-uns. The Indebted Woman, avec Santosh Kumar et Ganesan Venkatasubramanian, en 2023. La microfinance et ses dérives, émancipée, disciplinée ou exploitée, en 2015. Ainsi que d'autres ouvrages avec ses collègues Isabelle Hillenkamp, Christine Verschour et d'autres encore. Isabelle Guérin est une grande spécialiste de la microfinance, mais pas seulement. Elle nous dresse la fresque des politiques publiques de développement qui se sont succédées depuis une soixantaine d'années et la conception sous-jacente de la pauvreté qui les ont informées. Isabelle Guérin nous invite à pratiquer ce qu'elle nomme le double regard, qui consiste d'une part à critiquer et à regarder dans le même mouvement quelles sont les possibilités de faire autrement. Avant de lancer l'épisode, je tiens à remercier le CCFD Terres Solidaires qui a financé une partie de mon travail de recherche sur les féminismes africains, ainsi que l'ambassade de France du Sénégal qui a contribué au financement de la production de cette série. Bonne écoute. Isabelle Guérin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et vous travaillez notamment sur les questions d'accès à l'emploi et la finance dans les pays en développement. Vous êtes socio-économiste. Et je vais vous laisser tout de suite la parole pour nous expliquer ce que c'est que la socio-économie et la façon dont vous travaillez.
Oui, bah merci de cette invitation déjà, c'est un plaisir. Alors socio-économie, oui, de quoi s'agit-il ? La socio-économie, je suis formée comme économiste, j'ai un diplôme, j'ai une thèse en économie, mais avec la conviction, hein, comme d'autres, mais c'est hélas loin d'être partagé par la plupart des économistes, que l'économie n'existe pas en tant que telle. L'économie, que ce soit de la production, de la consommation, de la finance, et systématiquement entremêlé, articulé, enchevêtré avec des institutions sociales, des relations sociales, des croyances, des normes, des rapports de pouvoir, des pratiques culturelles. Donc la socio-économie consiste à tenir compte de cet enchevêtrement. Je dirais peut-être deux autres choses. La première, c'est que pour moi, et je partage ça aussi avec d'autres, en particulier avec Isabelle Hillenkamp, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec Jean-Louis Laville, avec Jean-Michel Servet, le fait de combiner ce qu'on peut appeler une approche critique et une approche possibiliste. Alors, c'est un peu jargonneux, mais c'est finalement assez simple. Une approche critique consiste à être attentif à l'action du pouvoir et la domination. Il y a toute une partie de mon travail, un peu déprimante, mais nécessaire, qui consiste à regarder comment les politiques dites de développement contribuent à s'adosser, reproduire, reconfigurer les rapports de pouvoir entre hommes et femmes, entre classes sociales, entre populations, anciens empires coloniaux, contextes postcoloniaux, etc., etc. Et en même temps, les chercheurs ont une responsabilité à être attentifs à des initiatives qui sont souvent invisibilisées, disqualifiées, parce que ne répondant pas à un certain nombre de critères considérés comme légitimes, mais qui ont un potentiel à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, d'inventer d'autres horizons, d'autres manières de faire, et de montrer qu'il y a des choses possibles, d'où le terme un peu jargonneux de possibilisme. Et puis peut-être le dernier point, très en phase avec un certain nombre d'approches féministes, c'est aussi d'essayer de combiner une approche très matérialiste, c'est-à-dire il y a les rapports de pouvoir et les questions de domination sont ancrés dans des questions très concrètes, très matériel, la matérialité économique, la matérialité corporelle, le corps comme un support est quand même assez central de domination pour un certain nombre de catégories dominées, les femmes en particulier, mais pas que. Et en même temps, ne pas laisser de côté les affects, les émotions, la sensibilité. Les êtres sociaux sont des êtres sociaux, ne sont pas animés que par des questions matérielles. Alors c'est un peu compliqué de tenir tout ça à la fois, Mais voilà, ça me semble assez compliqué, mais néanmoins indispensable pour comprendre justement ces pratiques socio-économiques avec lesquelles j'ai démarré.
Une question d'ordre général pour entrer dans le sujet. Comment est-ce que les politiques publiques de développement comprennent les inégalités et la pauvreté? Comment est-ce qu'elles les décrivent? Comment est-ce que qu'est-ce qui se dessine en fait comme compréhension et comme vision de ces phénomènes? Et à partir de là, quelles sont les solutions qui sont apportées dans ce secteur du développement depuis à la louche une cinquantaine, allez, soixantaine d'années pour penser depuis les indépendances du continent africain?
Alors, bon, c'est vrai que c'est toujours utile de démarrer par ça. Du coup, je vais faire une fresque nécessairement simpliste et réductrice, mais bon, qui permettra peut-être de caler les idées. Donc déjà, le terme de développement, il y a plein de définitions possibles. Moi, je définis ça de manière très neutre, comme l'ensemble des relations entre les anciens empires coloniaux et les contextes post-coloniaux, sans du tout préjuger est-ce que c'est positif, négatif. Voilà. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire avec mes étudiantes, c'est de leur présenter une fresque. Bon, là, on peut pas la montrer. Et brossant à grands traits quelques grandes étapes. Alors, je me centre et en me centrant sur sur la manière dont les femmes ont été prises en compte dans ces questions de développement. Voilà, donc c'est un peu le prisme que je vous propose. Alors, on peut démarrer de manière très simple au moment où les premières politiques dites de développement sont énoncées au lendemain de la au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et puis après ça prend forme au moment des indépendances. Les femmes n'existent pas. Elles sont oubliées. Voilà, je pense à alors Lévi-Strauss. Bon, s'il ne s'agit pas de critiquer Lévi-Strauss, il faut le resituer dans son contexte. Mais quand il écrit dans le village, il n'y avait personne, il y avait que des femmes et des enfants. Bon, les politiques en charge des questions de développement de l'époque font tout à fait le même constat. Et voilà, faire du développement, on est dans une optique modernisatrice. Il s'agit de moderniser l'agriculture, hein, de passer d'une agriculture de subsistance supposée voilà inefficace et incapable de nourrir suffisamment les populations à quelque chose de voilà de moderne voilà calqué sur les modèles occidentaux qui suppose productivité intensification etc et cela va de soi que ça ne peut être que quelque chose de confié aux hommes hein, technique ça suppose des équipements etc avec des conséquences assez dramatiques dans tout un tas de contextes où l'agriculture était en grande partie par les femmes avaient une très grande responsabilité. Je pense par exemple au Sénégal où j'avais un petit peu travaillé pendant ma thèse et où voilà historiquement on sait bien que en tout cas pour certaines communautés sénégalaises, les femmes, comme bien dans bien d'autres contextes, ont rarement eu un droit de propriété, mais quand même un droit d'usage, et avec une spécialisation sur certains types de cultures dont elles pouvaient s'approprier les fruits. Hein. Et avec du coup des modes de gestion très leur donnant une certaine autonomie, beaucoup plus d'autonomie que les femmes françaises. Il a fallu attendre en 1965 pour que les femmes françaises puissent accéder à un compte bancaire. Les femmes sénégalaises ont toujours eu une très très grande autonomie du fait de ces pratiques, voilà, de droit d'usage sur un certain type de terre. Les colons arrivent avec leur enfin la colonisation parce que ces politiques de développement s'inscrivent dans une continuité. Il y a les politiques dites de développement n'ont pas démarré avec les agences de développement, mais s'inscrivent en continuité avec des pratiques très anciennes démarrées au moment des périodes coloniales. Mais donc bref, voilà, pour pas trop m'égarer, je reviens sur mon propos initial qui était de dire que les femmes sont oubliées parce que considérées comme voilà comme inactives en conformément à une vision de la division sexuelle du travail qui est en vigueur dans les pays dits développés et où vous avez vraiment cette construction qui émerge au moment de la période industrielle. De l'homme pourvoyeur de revenus, de la femme mère au foyer, qui est quelque chose qui est à l'échelle de l'histoire Europe États-Unis est assez récent, hein, ça date vraiment du 19e. Et vous allez avoir tout un tas de pratiques, d'intellectuels, mais les questions statistiques aussi qui visent vraiment à créer cette fiction, qui est quand même une fiction en particulier pour les milieux populaires. En France, les femmes des milieux populaires ont toujours travaillé, ont toujours exercé des activités génératrices de revenus. Mais vous avez ce modèle aussi très très bourgeois hein, qui vise aussi à la fois créer des normes de genre, mais qui crée aussi des normes de classe, hein, puisqu'une femme qui doit travailler, c'est une femme qui n'est pas respectable, puisqu'elle va forcément rencontrer des hommes, etc. Et ce qui est fascinant, c'est comment ce modèle fascinant mais extrêmement perturbant s'est donc déployé grosso modo voilà au courant du 19e en Europe et en Amérique du Nord et puis et ensuite s'est propagé par les politiques coloniales, puis les politiques de développement, et continue encore de se propager aujourd'hui, alors que ça ne correspond visiblement à quelque chose d'extrêmement singulier, qui occulte complètement à la fois le rôle très actif, y compris sur le plan production économique des femmes dans tout un tas de contextes, et puis qui occulte aussi la diversité des formes familiales, etc. etc. Bon, je reviens à la question. Donc, première étape où elles sont complètement écartées, et avec des conséquences dramatiques de marginalisation de femmes qui jusque-là avaient quand même une certaine autonomie, une certaine responsabilité, etc. Plusieurs décennies, voilà, des années 50, jusqu'aux années 60, 70, je dirais, grosso modo, avec la fresque, les temporalités sont quand même variables suivant les contextes, hein, mais grosso modo, on peut retenir à peu près cette périodisation une approche, modernisatrice, assez keynésienne. Voilà, on fait des grands investissements, des banques de développement, il faut construire des routes, des infrastructures, il faut industrialiser. Et puis
après tout le cadre à l'intérieur duquel cette économie de marché, d'emploi va pouvoir se déployer, quoi.
Tout à fait. Et avec un rôle assez actif des États. Et puis, voilà, prise de, je passe très vite, hein, mais prise de conscience, c'est quand même, on est dans les débuts de l'idéologie très libérale, voire néolibérale, qui émerge Europe, États-Unis, avec une très forte critique sur l'interventionnisme public, le constat que dans un certain nombre de pays, d'États dits défaillants, les finances publiques sont très mal gérées, corruption, endettement, incompatible avec une croissance soutenable, etc. Donc là, il va y avoir quand même un revirement assez massif qui va donner lieu au fameux plan d'ajustement structurel. Je passe très très vite, je crois que vous l'avez traité dans d'autres interventions. La conséquence va être assez radicale en termes de politique de développement, puisque donc ces fameux plans d'ajustement structurel, les 70, 80, 90 pour d'autres pays, vont quand même avoir provoqué un choc absolument effroyable sur tout un tas de services de base et sur la survie de toute une partie de la population, et avec des conséquences dramatiques en termes de pauvreté. Prise de conscience que quand même cette pauvreté est problématique, prise de conscience que le fameux modèle de développement supposé amener à une société salariale calquée sur les pays du Nord ne fonctionne pas, cette économie informelle qu'on supposait vouée à disparaître, finalement, elle persiste. Et puis on se rend compte que non seulement elle persiste, mais elle est quand même finalement assez utile, puisqu'elle permet d'amortir les chocs, hein, en cas de crise, notamment pendant les périodes les plans d'ajustement structurel qui ont vraiment saigné tous les différents pays. Avec donc la suppression d'un certain nombre d'emplois publics, le refuge dans les
publics derrière.
Tout à fait, ouais. Et le refuge à l'économie informelle s'est révélé être un refuge et un amortisseur de crise. Donc on regarde différemment l'économie informelle en considérant que ça peut être tout à fait une solution. Et donc là, on passe à on prend conscience aussi des questions de pauvreté qui sont quand même pas mal mises en avant par certaines agences des Nations Unies. Qui sont quand même assez sensibles à ces questions-là. La Banque mondiale aussi se préoccupe de ces questions de pauvreté. Et là, l'économie informelle va du coup être regardée d'un regard très différent, et avec tout un tas de mesures visant à favoriser finalement non plus des grands projets, non plus industrialisation à grande échelle, mais plutôt soutenir la création d'activités génératrices de revenus par des populations pauvres, et avec ce constat que c'est pas le capitalisme ni le marché qui crée la pauvreté, mais c'est plutôt l'insuffisance du capitalisme et l'insuffisance de marché qui est source de pauvreté, hein. Donc c'est l'émergence de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme populaire, hein, vous avez ce fameux ouvrage de Hernando de Soto, là, ce économiste péruvien, le titre de son livre m'échappe, mais avec vraiment c'est une idéologie très extrêmement libérale, consistant à dire il n'y a pas suffisamment de droits de propriété dans les pays du Sud, et il faut vraiment lever cette question des droits de propriété pour permettre à des pauvres de créer leur entreprise. Et donc la réflexion va vraiment se porter sur quelles sont les barrières à la création de marché. Avec cette idée que les barrières, ça va être la question de l'insuffisance des droits de propriété. Hein, si vous protégez pas suffisamment les droits de propriété, donc vous avez toute une forte préoccupation pour le fait d'individualiser le droit à la terre, par exemple, en faisant fi de dans tout un tas de contextes, une approche très différente qui consiste à considérer les droits à la propriété plutôt comme des faisceaux de droits et d'obligations collectifs, etc. Bon, on fait fi de tout ça et on considère que l'individualisation des droits à la propriété est la meilleure manière de développer des marchés. Autre barrière identifiée, les barrières d'accès au crédit. Hein, si les pauvres ne créent pas dans l'activité génératrice de revenus, c'est parce qu'ils n'ont pas d'accès au crédit, parce que les banques ne leur font pas confiance, ce qui est tout à fait... Là, le constat est juste. Hein, c'est vrai que les banques ne s'intéressent pas aux pauvres, dans les pays des Sud comme ailleurs. Mais donc, voilà, tout un tas la question des inégalités de la pauvreté est pensée comme inégalité d'accès au marché, inégalité de développement de petites entreprises capitalistes. C'est le début de ce fameux microcrédit, qui va être son âge d'or. C'est le donc là je brosse vraiment à grands traits hein, parce que là on est à la fin des années 90, début des années 2000, avec un âge d'or en 2005. L'année 2005 est considérée année du microcrédit par les Nations Unies. 2006, Mohamed Younous qui a créé la fameuse Grameen Bank au Bangladesh, considéré un peu comme le modèle du microcrédit, va recevoir le prix Nobel de la paix. Peut-être on reviendra après, je crois, sur les dérives du microcrédit. Donc j'en dis juste quelques mots pour souligner à quel point ça a été vraiment considéré comme l'outil hein, qui allait véritablement permettre de libérer des énergies créatrices, des énergies entrepreneuriales et de lutter contre la pauvreté. Donc, vous voyez que dans la phase précédente, les pauvres sont considérés comme des travailleurs, des travailleuses. D'ailleurs, j'ai un peu raté une période hein, où quand les femmes ont été oubliées, à un moment donné, elles ont quand même été considérées comme des cibles particulièrement intéressantes pour l'industrialisation, puisque considérées comme une main-d'œuvre pas chère. Et vous avez un certain nombre d'économies, notamment dans les pays émergents, et pas que, qui ont développé toute une stratégie basée sur les exportations, notamment tout ce qui est dans le domaine de l'industrie textile, et qui ont développé leur compétitivité sur une main-d'œuvre pas chère, notamment féminine. Je pense au Mexique, par exemple, je pense à un certain nombre de pays du sud-est asiatique, je pense au Bangladesh, qui est difficilement classé comme pays émergent, mais qui a quand même construit une partie de son économie sur l'industrie textile grâce à une manœuvre féminine pas chère. Donc voilà, les pauvres, d'abord travailleurs, travailleuses, ensuite micro-entrepreneurs. Bon, on se rend compte, microcrédit pour plein de raisons dont on va parler après, ça marche pas si bien que ça. Les pauvres, finalement, sont pas tous des entrepreneurs en puissance. On constate que les microcrédits sont quand même utilisés beaucoup pour de la consommation.
Oui, c'est ça. En fait, là, vous êtes beaucoup intéressé à ce dispositif et à aux résultats véritables qu'il donne sur le terrain. Et il y a de nombreuses critiques. Il y a de nombreuses critiques qu'on peut faire au microcrédit à ce dispositif qui n'a absolument pas tenu ses promesses, même si. Il y a toujours quelques résultats qu'on met en avant j'imagine certains éléments qui sont encourageants, mais ça ne résout absolument pas tout. Et les grandes critiques que vous faites au microcrédit, quelles sont-elles?
Alors, juste avant de, parce que je crois que votre question précédente, j'ai pas été jusqu'au bout.
Ah oui,
juste,
d'accord.
Et après, je reviens parce que je pense que cette fresque, elle est quand même intéressante. C'est-à-dire, avec moi, vraiment, ce que je dis à mes étudiants, et je trouve que c'est assez pédagogique, c'est on passe, il y a plusieurs grandes étapes. D'abord des pauvres, des travailleurs, des travailleuses, ensuite des micro-entrepreneurs. Bon, on se rend compte que ça marche pas. Dans quelques instants, je vais vous dire pourquoi. On se rend compte que le microcrédit, c'est surtout du crédit à la consommation. Au départ, c'est considéré comme une déviation, une perversion du système. Et puis finalement, de toute façon, c'est la seule manière pour le microcrédit de subsister, hein, puisqu'on peut pas forcer les pauvres à se transformer en entrepreneurs. Et finalement, l'accès à la consommation devient quelque chose de tout à fait légitime et ouvre la voie à un phénomène beaucoup plus global qu'on va appeler soit le bas de la pyramide, bottom of the pyramid, ou le business social, et avec l'idée que les pauvres sont pauvres, hein, mais ils sont très nombreux. Donc ils ont un pouvoir d'achat qui est faible, mais si vous agrégez ce pouvoir d'achat, ça fait quand même des marchés considérables. Face à des marchés des pays du Nord, des pays tiers en développement qui sont saturés, et face à cette nécessité permanente du capitalisme qu'avait bien montré un certain nombre d'études marxistes, je pense à Rosa Luxembourg par exemple, qui disait la machine du capitalisme, il faut sans cesse trouver de nouveaux débouchés. Hein. Donc on cesse de nous vendre de nouveaux produits, mais il faut aussi trouver de nouveaux consommateurs, consommatrices. Et voilà, en 2007, vous avez ce rapport de la Banque mondiale, les prochains 4 milliards, the next 4 billions, qui fait une étude de marché sur ce gisement considérable que représentent les populations des Sud, qui certes ont un pouvoir d'achat très faible, mais qui de manière agrégée représentent des marchés d'un potentiel absolument considérable. Et donc là, vraiment, à mon sens, une nouvelle étape, voilà, je dirais, d'un tour de 2000, 2005, 2010, de manière inégale selon les contextes. La France s'y met un peu plus tard, avec un rapport de CARE en 2010, sur ce business social, bas de la pyramide. Bon, les termes veulent pas tout à fait dire la même chose, mais je suis pas sûre que ce soit la peine de rentrer dans les détails. Mmh. Le point commun, c'est vraiment de considérer les pauvres des Sud comme des consommateurs et des consommatrices, surtout potentielles, hein, les femmes étant quand même ciblées en priorité. Ce que j'ai pas dit, c'est microcrédit, c'est quand même, on cible les femmes en priorité. La consommation, voilà, comme si on est dans des, il s'agit pas de n'importe quel type de consommation. Vous avez une première ébauche de ce concept, pas de la pyramide, hein, l'idée, voilà, une pyramide avec, en fonction des niveaux de richesse, et donc les pauvres sont tout en bas, ils sont pauvres, mais le bas de la pyramide est très large. Mmh. Hein. Donc vous avez une première esquisse de cette théorisation dans les années 90 par un économiste d'origine indienne mais installé aux États-Unis, Prahalad, qui donne pas grand-chose, qui fait un peu mouche à l'époque, aussi parce que sur les objets de consommation qu'il prend en exemple, certains sont quand même éthiquement très problématiques. Il prend l'exemple de cosmétiques blanchissantes pour des femmes indiennes. Bon, donc il est quand même heureusement critiqué par un certain nombre de mouvements féministes, mais pas que. Et donc il va y avoir une deuxième mouture, hein, le bottom of the pyramid, le BOP. C'est le sigle, c'est le BOP, donc une nouvelle mouture, BOP 2.0, qui se focalise sur de la consommation socialement responsable. Donc ça va être des fours à faible combustion, ça va être des lampes solaires, ça va être des produits cosmétiques à base de plantes médicinales, ça va être des yaourts vitaminés, de la purée pour bébé vitaminée, ça va être l'accès à des latrines améliorées pour éviter la défécation en plein air, voilà, tout un tas de bien, éventuellement de services qui sont supposés améliorer le bien-être des familles, donc raison pour laquelle on cible aussi les femmes, puisque c'est tout ça s'inscrit dans leur prérogative de mère et d'épouse, puisqu'on suppose que ce sont des mères et des épouses au foyer. Donc voilà, consommation. Hein, donc on a eu la phase travailleur-travailleuse, entrepreneur-entrepreneuse, consommateur-consommatrice. Et là, on est toujours dans cette phase, mais avec toujours cette question, qu'est-ce qui fait que toujours cette question des barrières, hein, vous vous souvenez, barrière à l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il n'y a pas de droit de propriété, c'est parce qu'il n'y a pas d'accès au crédit. Et là, une barrière centrale qui émerge depuis quelques années avec l'influence de la psychologie comportementale et de l'économie comportementale, c'est des barrières comportementales. De manière un peu simpliste, ça plaira pas à des collègues économistes comportementalistes, je reconnais que c'est un peu simpliste, mais au final ça revient quand même un peu à ça, si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils ont des comportements qui sont pas optimaux. Ils ont des comportements biaisés. Pourquoi ils épargnent pas? Hein, vous avez, ça c'est une obsession depuis la période coloniale, on s'est toujours demandé, mais pourquoi les pauvres, au nord comme au sud, hein, n'épargnent pas? Mmh. Bon, je laisse de côté la question, mais s'ils épargnent pas, c'est peut-être qu'ils ont pas d'argent, mais... le peu qu'ils ont, pourquoi ils épargnent pas, et vous avez toute une analyse extrêmement sophistiquée, inspirée de la psychologie cognitive, qui consiste à dire qu'ils ont un certain nombre de biais, qu'on a tous et toutes. Il ne s'agit pas de dire que les pauvres ont plus de biais que d'autres, mais pour les pauvres, ça va avoir des conséquences plus problématiques, et donc ces biais, ça va être ce qu'on appelle la procrastination. Je sais qu'il faut que j'arrête de manger des cookies, mais je suis très tentée par le fait de manger un cookie. On remet au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Le pauvre, il sait qu'il doit épargner, mais il va être tenté et il va tenter par ceci, cela, acheter une glace à sa fille, s'acheter un nouveau sari, je ne sais quoi. Alors je vous vois froncer les sourcils, donc je sais peut-être que je suis en train de vous perdre, mais il faut voir à quel point ça obsède toute une frange de l'économie. Ça. L'économie quand même influence beaucoup la manière dont le développement est pensé. Vous avez un rapport de la Banque mondiale, je crois que c'est 2000, la date m'échappe, pas dire de bêtises, il y a quelques années, qui est vraiment centré sur cette question de l'économie comportementale et qui vise, d'autres exemples, un certain nombre d'ONG aujourd'hui pensent aussi en termes de sans forcément utiliser le terme, mais ça revient à ça, parce que la conséquence sur les politiques de développement, elle est très claire. Elle est voilà, si on veut transformer les pauvres en entrepreneurs, on leur donne du microcrédit, éventuellement de la formation, etc. Les pauvres, si on veut les transformer en consommateurs, on leur donne accès à des microcrédits pour la consommation et on développe des produits qui vont être adaptés à ce qu'on imagine qu'ils souhaitent. Si on considère que la pauvreté est un problème de biais de comportement, on va développer tout un tas de ce que les, alors on a du mal à le traduire en français, mais ce que les comportementalistes qualifient de nudge, c'est-à-dire un petit coup de pouce, des petites astuces qui vont permettre de corriger ces biais de comportement. Donc l'épargne, si les pauvres épargnent pas, c'est que voilà, ils ont ces biais de comportement, cette tendance à toujours repousser au lendemain ce qu'ils devraient faire aujourd'hui, une vision également erronée du temps. Et par rapport à ça, ce que nous dit le comportementalisme, pas la peine de faire la formation ne marche pas, c'est des choses qui sont ancrées dans nos systèmes de représentation, dans la manière dont le cerveau fonctionne. Donc il faut plutôt des petites astuces répétées qui permettent de corriger ces biais de comportement. Et pour revenir à la question de l'épargne, la petite astuce, le petit nudge, ça va être des SMS qu'on vous envoie tous les jours, une fois par semaine. Avez-vous pensé à épargner ? Et avec l'idée que ça va corriger ces fameux biais de comportement. Voilà, autre exemple, on se rend compte qu'on est quand même fortement, les comportements sont souvent biaisés parce qu'on a tendance à agir de manière sous-optimale et à copier ce que font les autres. Et donc du fait de ce qui n'est pas faux, hein. Mais donc du coup, prenons l'exemple de comment développer l'entrepreneuriat féminin, puisque on se rend compte que finalement, dans plein de contextes, les femmes ont une propension moins forte que les hommes à vouloir développer des activités entrepreneuriales. Et ben, on va leur présenter des petits spots vidéo ou des photos où elles voient des femmes entrepreneurs. Alors le pour un certain nombre de sujets, l'approche comportementaliste est pas complètement dénuée d'intérêt. Voilà, l'exemple célèbre le plus souvent donné, c'est celui des mouches ou des abeilles dans les urinoirs. Voilà, les messieurs ont souvent tendance à pas faire attention à ce qu'ils font, et donc les urinoirs sont souvent très sales. Que finalement, plutôt que de faire de la campagne extrêmement complexe de sensibilisation, petit nudge très simple, c'est de mettre une mouche ou une abeille au centre de l'urinoir, et on se rend compte que c'est finalement très efficace. Dans les cantines, comment faire en sorte que les gens mangent moins, ou dans les cafétérias, plutôt que de faire des grandes campagnes de publicité sur les problèmes d'obésité, etc., vous mettez des assiettes plus petites. Certaines choses comme ça où ça peut marcher.
D'accord.
Mais pensez que la question de la pauvreté peut être réduite à des biais de comportement, pour moi, c'est quand même extrêmement problématique. Et on est encore franchi un cap dans la manière d'individualiser et de restreindre à une peau de chagrin des problèmes de pauvreté et d'inégalité qui sont indissociables de questions structurelles, d'asymétrie, de rapport de pouvoir à l'échelle macroéconomique, à l'échelle des États, à l'échelle des régions, des communautés. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais utile d'aller jusqu'au bout parce qu'on est quand même dans une période où on a quand même encore franchi un cap dans cette manière, voilà, de dépolitiser et de dépouiller complètement des questions qui sont intrinsèquement des questions d'inégalité d'accès aux ressources et des questions d'inégalité d'accès à des formes de savoir, à des formes de connaissances. Alors certains vont vous dire, oui, mais l'économie comportementaliste, c'est quand même une manière beaucoup plus réaliste de penser les comportements puisqu'on s'écarte de l'homo economicus. On s'écarte pas tant que ça, l'homo economicus. On constate que dans pratique, les personnes s'en écartent parce que des biais de comportement, elles ont tendance à copier le voisin, etc. Mais pour encore mieux y revenir, il faut mettre en place ces nudges pour corriger ces biais de comportement et revenir avec l'idée que les comportements optimaux sont quand même ceux de l'homo economicus.
Oui. Oui, c'est une manière de saisir de penser la pauvreté qui est extrêmement appauvrie, quoi, enfin qui est vraiment qui se concentre sur j'ai envie de dire peut-être le dernier kilomètre, en fait, enfin vraiment le
tout à fait
le petit, voilà, le choix éventuellement dans une situation donnée, mais qui ne prend pas en considération le contexte beaucoup plus vaste.
Vous avez tout à fait raison, à tel point que une des conséquences de ces approches comportementalistes va se traduire par ce qu'on appelle du marketing social. C'est-à-dire avec l'idée que des latrines améliorées sont forcément une bonne chose. Alors bon, on peut difficilement être contre les latrines améliorées, mais tout dépend. Est-ce qu'on a un système d'assainissement? Est-ce qu'on a accès à l'eau? Est-ce qu'on a de l'espace pour faire des latrines? Et donc, voilà, l'exemple des latrines est prenons celui-là. Le problème de la défécation en plein air est un problème de santé publique reconnu par les épidémiologistes. Et qui résiste encore dans tout un tas de pays. L'Inde en est un exemple qui décourage beaucoup d'intervenants dans ce domaine parce que les Indiens, les Indiennes résistent à ce problème de la défécation en plein air. Et donc, réduire le problème de la défécation en plein air à un problème comportementaliste va consister à imaginer des techniques de vente de type de latrine associées à voilà, est-ce qu'un packaging de ce type va être plus attractif qu'un packaging de ce type-là? Est-ce que il faut plutôt proposer tel type de subvention à tel moment de l'année, bon, etc. Tout un tas de différents types de variantes pour savoir comment vendre, à quel prix vendre, quel discours utiliser. Bon, soit dans des contextes où vous n'avez pas d'eau, dans des contextes où vous n'avez pas d'espace, ce qui fait que si latrine il y a, elle sera adjacente à la cuisine et les gens vont vous dire, j'ai l'impression, excusez-moi l'expression, mais c'est la manière dont les gens parlent, j'ai l'impression de manger de la merde. Dans les années 60 en France, un grand nombre de latrines étaient au fond du jardin parce qu'on n'avait pas d'espace, il n'y avait pas les mécanismes d'aération qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'était beaucoup plus sain, pour des questions aussi d'odeur, d'éloigner les latrines et de les garder au fond du jardin. Aujourd'hui encore, des grandes campagnes financées par la coopération britannique et par coopération américaine, etc., avec des financements absolument gigantesques, pensent les questions de la lutte contre la défécation en plein air de cette manière-là, sans se préoccuper, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de l'espace, est-ce qu'il y a un système d'assainissement, comment on va faire pour vider les fosses une fois qu'elles sont pleines. Donc, ça peut sembler monstrueux ce que je vous raconte, je pourrais donner plein d'autres exemples sur à quel point on ne pense pas les infrastructures. On pense le bout du service avec une approche comportementaliste. Voilà.
Et alors, enfin, pour revenir au microcrédit, donc qui correspond à un dispositif qui a émergé au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Moi, en fait, la critique que j'ai beaucoup retenue en vous lisant, c'est celle de, et qui m'a marquée, c'est celle au fond de la financiarisation de l'économie domestique et de cette idée que, en cherchant à répondre à la question de l'augmentation en fait des ressources des populations à faible revenu, à faible ressources, cette idée du microcrédit se présentait comme une bonne idée au départ, mais que dans la réalité et dans les faits, ce qu'on observait, c'est que en fait les gens se retrouvaient à emprunter pour financer leurs achats alimentaires ou l'école des enfants ou les soins de santé, et finalement tout ce qui était plus pris en charge, ce qui n'était pas pris en charge par le service public ou des services de protection sociale, et que en fait c'était plutôt des pans entiers de l'économie domestique qui s'étaient retrouvés financiarisés, parce qu'à la fin ce microcrédit les fonds qui sont réunis, rassemblés, ils évoluent sur les marchés financiers. Enfin, ma question ici, c'est comment se fait-il que, malgré les critiques, en fait, ce genre de dispositif continue à se déployer? Et en fait, quelles sont les idées, le consensus, mais ça vous l'avez peut-être déjà un peu dit, mais qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché et qu'en tout cas, ça a eu un grand succès dans le secteur du développement pour que tout le monde s'y mette?
Oui. Alors, peut-être plusieurs points. Le premier, c'est effectivement, il y a eu quand même un engouement. Alors, le monde du développement aime bien les modes. Donc, voilà, ça marche par mode. Et donc, effectivement, le microcrédit a eu son heure de gloire en suscitant l'adhésion d'idéologies extrêmement variées, depuis des idéologies très libérales. On peut aisément comprendre puisqu'il s'agit de la promotion de l'entreprise individuelle, donc on comprend aisément pourquoi ça suscite l'intérêt d'approche très libérale, mais aussi d'approche très progressiste, réformatrice. Et je crois que ce qui a beaucoup plu à ce moment-là, c'est de considérer les pauvres non pas comme des incapables, mais comme des personnes capables, créatrices, débrouillardes. Et ça, c'est vrai que c'était une idée assez formidable, hein, d'arrêter ce misérabilisme permanent sur les pauvres qui serait toujours à manquer de quelque chose.
Un peu Amartya Sen ou
en lien, oui, effectivement, ça fait écho à quelque part à cette question des capacités de Amartya Sen, de vraiment s'intéresser sur ce dont les gens sont ce dont ils sont capables de faire. Le problème, c'est que alors on pourrait en parler longtemps, mais plusieurs choses. Un, pourquoi ça a autant fonctionné, c'est-à-dire que autant fonctionné au sens où aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un pays qui n'ait pas ses politiques de microcrédit, que ce soit par le biais des politiques publiques, dont on oublie parfois qu'elles sont de très grandes actrices de ces politiques-là, que ce soit de plus en plus, et là les chiffres sont assez clairs, la finance de marché qui a compris, là qui avait un peu en lien avec le BOP dont je parlais tout à l'heure, qui a compris que là il y avait une niche de marché considérable, et donc vous avez un nombre grandissant de compagnies de microcrédit qui sont des entreprises à but lucratif, qui doivent non seulement équilibrer leurs recettes et leurs dépenses, mais faire des profits pour répondre à des exigences de leurs investisseurs, voire de leurs actionnaires. Un certain nombre d'entre elles sont cotées en bourse. Et là, avant de venir à la critique du modèle originel, qui en fait était vicié dès le départ, hein, je crois que c'est important de resituer et de ne pas blâmer le microcrédit d'un certain nombre de fléaux dont il n'est que le symptôme. On est dans un contexte à l'échelle mondiale, donc il y a des variantes suivant les contextes, mais de manière générale, on est dans un contexte où quand même les revenus réels, c'est-à-dire ce que les gens touchent, hein, déduit de l'inflation, soit diminue, soit au mieux stagne, alors que dans le même temps, les besoins, les dépenses explosent. Voilà, regardez le cours des matières, le cours des céréales, le cours de l'alimentation, c'était déjà le cas avant la crise pandémique, donc ça n'a fait que s'exacerber depuis. L'énergie, donc c'est vrai sur l'ensemble de la planète, ça va être encore plus vrai dans des contextes où l'agriculture de subsistance continue de diminuer, l'accès à un certain nombre de communs diminue, pâturage, forêt, pour diverses raisons, y compris des politiques de conservation qui sont parfois quand même très problématiques puisqu'elles privent l'accès à des ressources pour un certain type de population. L'éducation, soit les écoles se privatisent, soit les populations, y compris pauvres, ont des aspirations et veulent éduquer leurs enfants et sont prêtes à payer et sont prêtes à s'endetter pour éduquer leurs enfants correctement parce qu'elles y voient là une possibilité de mobilité sociale. Donc à la fois que ce soit pour des questions de survie quotidienne ou que ce soit pour des questions d'aspiration qu'il ne faut pas négliger et qui existent dans tout un tas de contextes des Sud, des aspirations très fortes, avec des gens qui veulent sortir de la pauvreté, qui sont pas du tout enfermés dans un fatalisme dans lequel souvent on les enferme, et qui ont vraiment une vision de l'avenir voilà des perspectives, mais qui supposent un certain type d'investissement. Alors pas l'investissement entrepreneurial cher au microcrédit et à Mohamed Younous, mais un investissement dans l'éducation, un investissement parfois dans des rituels, notamment des mariages, qui dans un certain nombre de contextes sont des vecteurs possibles de mobilité sociale. Donc d'un côté des revenus réels qui au mieux stagnent, au pire déclinent, et de l'autre côté des dépenses qui augmentent. Téléphone portable, on ne peut plus nulle part, même au fin fond de je ne sais quelle contrée exotique, on ne peut pas vivre sans téléphone portable. Hein. Et avec des frais d'abonnement, puisque c'est pas seulement des téléphones portables, c'est des smartphones, etc. Donc vous avez ce décalage entre les revenus et les dépenses, c'est la dette. Hein. Donc, on est dans un contexte où l'endettement des ménages est une nécessité absolue pour faire face à ce décalage entre les revenus d'un côté et les dépenses de l'autre. Et le microcrédit arrive à point nommé pour répondre à cette demande, en fait. Donc, vous avez une très, très forte demande et il ne faudrait pas accuser, le microcrédit n'est pas contribue, finalement, et peut parfois susciter et exacerber cette demande. Mais d'une part, le microcrédit n'est souvent qu'une part de l'endettement des familles. Vous avez les sociétés de crédit à la consommation qui sont présentes dans plein de contextes. Vous avez le crédit informel qui continue de proliférer dans tout un tas de contextes, que ce soit des élites locales, des structures relativement organisées mais pas régulées. Enfin, la palette de l'endettement informel est extrêmement diversifiée. Je vais pas rentrer dans les détails. Et donc voilà, on a quand même un contexte général, structurel, d'incapacité des familles à répondre à leurs besoins qui fait que le microcrédit là arrive à point nommé pour répondre à ça. Et donc on peut critiquer le microcrédit, mais il faut aussi se demander pourquoi là derrière on a une incapacité du capital privé à payer des salaires décents à ses travailleurs. Le microcrédit finalement subventionne indirectement ces salaires insuffisants, et puis subventionne indirectement des états sociaux qui sont pas capables de fournir des services d'éducation, de santé. Le microcrédit sert beaucoup à la santé aussi. Et ensuite, pour revenir à pourquoi ça n'a pas marché, ce rêve de Younous et d'autres de transformer les pauvres en entrepreneurs, voilà, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que moi, je fais souvent le test avec mes étudiants, mes étudiantes, en demandant combien d'entre eux souhaiteraient créer leur entreprise, et le pourcentage est assez faible en fait. Il y a cette idée, d'économie informelle où c'est assez facile de monter son petit étal sur un point de trottoir et de se transformer en petit entrepreneur. Et en fait, d'une part, les gens n'ont pas forcément le souhait de faire ça, n'ont pas forcément l'appétence, et ensuite n'ont pas forcément le savoir-faire. C'est non même pas une question d'éducation, c'est plutôt une question d'attitude, c'est beaucoup une question d'entre gens. Il faut avoir un réseau relationnel avec des fournisseurs qui vous approvisionnent avec des matériaux ou des matières premières ou des marchandises de bonne qualité à un prix raisonnable. Il faut avoir un réseau avec des clients, des clientes. Dans certains cas, il faut savoir vendre à crédit. C'est la clé du succès. Donc, il faut avoir une certaine charisme, une certaine autorité pour que les gens vous remboursent. Même si c'est informel, et ça l'est pas forcément toujours, il faut aussi avoir des relations privilégiées avec toute une partie de l'administration pour éviter de payer des pots de vin trop élevés, l'administration, la police, pour éviter de vous faire déguerpir, comme on dit à Dakar. Donc voilà, tout un tas de compétences, de savoir-faire, d'entre-gens, de relations qui sont pas données à tout le monde. Et autre aspect qui est fondamental, qui est là une autre question vraiment de nature structurelle, c'est quand bien même vous avez des entrepreneurs ou des entrepreneuses extrêmement débrouillards, capables, dotés socialement, etc. La clé du succès, c'est quand même d'avoir des clients.
Oui, s'il n'y a pas de marché en face.
Et si vous n'avez pas de marché, ça ne va pas marcher. Et donc ce que les économistes qualifient d'effet de substitution, c'est-à-dire éventuellement vous avez une épicerie qui va fonctionner grâce au microcrédit, mais l'épicerie d'à côté aura fermé ses portes parce que la demande locale est rapidement saturée. Donc vous allez avoir des niches, voilà, des je sais pas, une zone touristique qui démarre où là le microcrédit va éventuellement permettre à des chambres d'hôtes de se développer, un petit artisanat, voilà, une zone résidentielle en ville qui se développe et avec des besoins de commerce de proximité. Voilà, quelques exemples extrêmement circonscrits où le microcrédit va pouvoir éventuellement appuyer la naissance de petites entreprises. Mais ce sont des cas qui sont extrêmement limités. De manière plus générale, je dirais que alors il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. À certaines conditions, il y a tout un tas d'entrepreneurs, hommes et femmes, qui ont besoin de ces services puisque les banques ne leur proposent pas. Encore que, comme je disais tout à l'heure, ça commence à devenir un marché intéressant, donc les banques aussi s'y mettent.
Parce que les taux d'intérêt sont très élevés.
Mais alors là, ça c'est l'autre problème. C'est donc pour finir avec le point précédent. Au mieux, le microcrédit va permettre à des personnes qui ont déjà une activité de la maintenir ou de l'améliorer. Voilà, une dame qui a une petite gargote et qui va avoir un microcrédit pour acheter un frigo et qui va proposer des boissons réfrigérées à ses clients ou ses clientes. Mais voilà, l'idée qu'on pourrait transformer des pauvres en entrepreneurs, ça vraiment, il faut, c'est une vue de l'esprit à laquelle il faut vraiment tordre le cou. Et puis le deuxième problème, effectivement, vous l'avez déjà dit, c'est qu'il y a eu cette idée que on pouvait, et ça a quand même vraiment été extrêmement néfaste pour l'ensemble du secteur, qu'on pouvait équilibrer, que c'est non seulement ces microcrédits allaient transformer des pauvres en entrepreneurs, mais en plus que ça pouvait être trouver un modèle économique leur permettant d'équilibrer leurs recettes et leurs dépenses, c'est-à-dire se passer de subventions. Or, faire du microcrédit à des populations sur des petits montants, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et donc, soit vous avez des subventions, soit vous payez très mal vos salariés, ce qui arrive, soit vous surchargez vos salariés, ce qui arrive aussi. Donc, vous avez des agents de crédit, des agents de crédit qui ont des portefeuilles considérables, qui font qu'ils ont une traite du coup très très mal leur dossier. Et puis, autre solution, vous augmentez vos taux d'intérêt. Alors, il y a une grande diversité, il y a un certain nombre d'organisations qui essayent, contre vents et marées, d'échapper à ce modèle et de continuer à fonctionner avec des subventions pour avoir des taux d'intérêt raisonnables. Mais malheureusement, la norme aujourd'hui, c'est quand même des taux d'intérêt qui sont très élevés et en tout cas bien supérieurs à la rentabilité des activités de leurs clients et a fortiori quand c'est du crédit à la consommation. Hein, donc en moyenne, on est sur du 30-40%. Une fois qu'on a ajouté taux d'intérêt, frais de dossier, frais d'assurance, etc. Donc c'est effectivement extrêmement problématique.
Oui, en fait, c'est pas une solution miracle. En revanche, en étudiant les sociétés du Sud, leurs économies, ce que vous avez commencer à interroger, c'est la question de la potentialité aussi de transformation sociale plus profonde que revêtent ces formes d'économie dont on a parlé au début, plutôt populaires, d'économie qu'on qualifie d'informelle, mais à l'intérieur de cette économie informelle, il y a plein de systèmes différents, il y a plein de modèles d'entreprises qui cohabitent et qui coexistent ensemble. Et une des questions que vous avez posées dans un de vos derniers ouvrages, c'est celle de savoir, enfin, d'observer cette tension entre Est-ce que l'économie populaire qu'on observe dans ces sociétés, c'est une manière pour ces populations de résister à une économie de marché qui vient écraser toutes les formes sociales qui sont contenues dans les pratiques économiques, mais qui ne se réduisent pas à de l'économie purement transactionnelle, enfin d'échange de biens sur un marché. Donc cette tension entre est-ce que c'est un phénomène de résistance ou bien ou et en plus est-ce que ce sont des formes qui ont été négligées, marginalisées et qu'on essaye à tout prix de transformer. On a cherché à sortir de l'informel, mais on n'y parvient pas. C'est ça qui est aussi intéressant dans ces sociétés du Sud, c'est que est-ce que c'est pas plutôt à l'intérieur de ces formes-là qu'on doit chercher à transformer nos manières de comprendre l'économie, de la pratiquer et de construire d'autres systèmes, voilà, qu'une économie de marché telle qu'on la connaît.
Oui, alors donc je disais au début, moi j'essaie de combiner une approche critique, et c'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent dans le cadre de cet entretien, avec une approche possibiliste, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a critiquer, condamner toutes ces dérives diverses et variées, n'y a-t-il pas quand même des raisons d'espérer? Et il y en a. Et donc là, j'en viens à l'approche que je qualifiais de possibiliste, hein, c'est-à-dire qui consiste à regarder la diversité des possibles. Mmh. Et si je devais résumer, et puis après je vais donner des exemples concrets, je crois que regarder de près le fonctionnement de ces économies populaires, ça amène vraiment à vraiment déplacer nos imaginaires qui sont quand même complètement enfermés dans des catégories de pensée qui nous empêchent finalement de réfléchir autrement et qui nous amène à redéfinir de manière assez radicale ce qu'on entend par économie et ce qu'on entend par politique. Ce qu'on entend par économie, alors je vous donne un exemple concret. Donc je travaille beaucoup, donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec en Inde du Sud, notamment deux collègues, Santosh Kumar et puis Venkata Subramanian. Et je démarre avec lui, Venkata Subramanian, voilà, compagnon de route depuis une vingtaine d'années, des terrains croisés. C'est-à-dire je le fais venir en France avec cette idée que de la même manière que l'anthropologie peut être conçue comme une manière de le principe de l'altérité, c'est-à-dire qu'on va avoir des sociétés qui sont différentes et qui nous permettent de mieux nous comprendre nous-mêmes aussi, hein. Et donc d'appliquer ce principe dans l'autre sens, hein, puisque c'est quand même l'anthropologie reste quand même et la recherche en sciences sociales de manière générale reste quand même très orientée sur un principe de l'altérité qui ne va que dans un sens, hein, c'est-à-dire qu'avec les chercheurs blancs qui vont étudier les sociétés des Suds pour mieux comprendre leur propre, à la fois pour mieux comprendre les sociétés en question, mais aussi pour mieux comprendre leur propre société. Je suis pas la première à faire ça, hein, mais c'est vrai que ça c'est quand même assez peu, c'est assez peu fréquent et bon, on est en train de tester ça. Et donc il est venu en France il y a quelques temps et on a beaucoup travaillé ensemble sur la question de la circulation monétaire et financière. Faire le lien avec le microcrédit. Le microcrédit a très très bien fonctionné dans le contexte indien. Ce qui n'a pas marché du tout, c'est la collecte d'épargne. On en a déjà dit quelques mots, il y a une obsession coloniale, comment se fait-il que les pauvres n'épargnent pas, les missionnaires chrétiens en Inde déjà essayaient de faire en sorte que les pauvres paysans mettent de l'argent de côté, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça se traduit par des politiques dites d'inclusion financière qui ouvrent des comptes bancaires aux pauvres et qui leur versent leurs prestations sociales sur des comptes bancaires et qui les incitent vraiment par des manières diverses et variées, y compris les nudges dont je parlais, on leur envoie des SMS, etc. Bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison simple, c'est que il faut que l'argent n'acquiert de la valeur que s'il circule. Quel sens ça a de stocker de l'argent sur un compte bancaire? Les gens disent, alors ils n'utilisent pas forcément ces termes, mais ça revient à ça, se sentent dépossédés de leur richesse, de leur territoire, puisque l'argent va on ne sait où et va être utilisé par la banque, et va être l'épargne des uns va être utilisée pour prêter à d'autres qui sont certainement des riches urbains, et donc le territoire d'origine est complètement dépossédé. Elle se sent complètement dépossédée. Ça dépossède aussi de leur espace social, hein, puisque là, finalement, l'alternative locale, c'est dès qu'il y a le moindre surplus, est réinjecté dans le réseau social. Dès que j'ai un peu d'argent, je le prête à ma voisine, à mon voisin, qui, le jour venu, me le rendra. Et donc, on a vraiment cette, voilà, cette vitesse de circulation, cette vélocité de la monnaie, qui est en soi une richesse, puisque ça permet à la fois de répondre à des besoins de liquidité et en même temps d'entretenir, de consolider des relations sociales. Et donc, ce collègue indien qui vient avec moi, on va ensemble faire du terrain dans une zone rurale française, et qui ne cessait de m'alerter sur le... Il avait beau avoir connaître très parfaitement le fonctionnement de la société française, ça fait très longtemps qu'il travaille avec des Français, le fait de voir de ses propres yeux à quel point finalement il y a une frilosité dans le fait de sortir du système bancaire et le fait que tous nos avoirs sont à la banque, pour la plupart d'entre nous, à part quelques communautés alternatives qui boycottent les banques, ce phénomène reste quand même assez rare. Vous avez aujourd'hui des produits d'épargne solidaire qui permettent effectivement de donner un sens à son argent, etc. Revenir à la question initiale sur la question des alternatives. Donc, il ne s'agit pas de romantiser et d'idéaliser ces communautés tamoules avec lesquelles j'ai travaillé et au sein desquelles la vélocité et la circulation monétaire est extrêmement intense, parce que ce sont aussi des sociétés extrêmement hiérarchiques, entre castes, entre classes sociales, extrêmement patriarcales. Donc, il s'agit, cette circulation de l'argent obéit à des contraintes diverses et variées, à des rapports de domination diverses et variées. Donc, il s'agit surtout pas de les idéaliser. Mais il s'agit de nous interpeller sur le fait que la richesse peut être perçue de manière différente. Et sur la manière dont nous, dans nos sociétés, avons été complètement dépossédés d'une partie de notre richesse. Et que finalement, ces femmes avec lesquelles j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années, et dont on a montré dans cet ouvrage qu'on a publié récemment, à quel point elles sont quand même prises dans des rapports de domination multiples, y compris d'exploitation financière, mais aussi sexuelle, et tout en étant, par ailleurs, beaucoup plus maîtresses de leurs avoirs que moi-même, par exemple. Mmh. Donc, il s'agit, non pas d'idéaliser, mais de nous aider à penser différemment ce que c'est que l'économie, à quel point l'économie, d'une part, est indissociable de relations sociales et de rapports de domination, mais à la fois pour le meilleur et pour le pire. Et je reviens à la question initiale, et avec ma première réponse qui était de dire, pour moi, tout ce fonctionnement de ces économies populaires, ça oblige, ça permet de repenser à la fois l'économique et le politique. Donc, je vais essayer d'être plus clair en utilisant une image que j'utilise là aussi avec mes étudiants, mes étudiantes, celle d'un iceberg que des féministes, ça, j'ai rien inventé, c'est assez classique.
The diverse economy iceberg.
Voilà, donc vous avez Maria Miss qui a utilisé cette image de l'iceberg. Vous avez aussi Gibson Graham qui utilise cette image de l'iceberg, avec cette idée que voilà, quand on pense économie, on pense au haut de l'iceberg, tout ce qui est. Vous ouvrez n'importe quel manuel d'économie, on va vous dire il y a plusieurs définitions, mais en gros tout ce qui s'échange sur un marché, c'est de l'économie. En fait, ça, c'est le haut de l'iceberg. Le bas de l'iceberg, c'est tout ce qui tient le haut de l'iceberg, et c'est le travail domestique gratuit de toute une partie de la population, notamment des femmes racisées, en position subalterne. Mais c'est aussi tout un tas de pratiques. Ce bas de l'iceberg, il n'est pas forcément vertueux. Mmh. Hein, il peut être, c'est aussi les économies criminelles, les économies mafieuses. Mais il faut à tout prix regarder comment il fonctionne pour comprendre comment le haut fonctionne, et c'est quand même en grande partie que les choses se passent. La subsistance de toute une partie de la planète dépend de ce bas de l'iceberg. Et là, la grande question, c'est de voir, il ne s'agit pas de dire que l'entremêlement entre l'économique et le social est nécessairement vertueux. Il s'agit de s'interroger sur à quelles conditions c'est vertueux, et c'est là où le travailler de près avec un certain nombre de collectifs qui non seulement sont dans cette économie populaire, mais avec une vraie volonté de lutter contre certaines formes d'exclusion, de consommer autrement, de consommer différemment, montre que véritablement qu'il y a d'autres manières de faire. Et donc je prends le cas d'une étude que j'ai menée avec un certain nombre de collègues, notamment Christine Verschur, Isabelle Hulenkamp, mes collègues indiennes dont j'ai déjà parlé, et un certain nombre de collègues sud-américaines, auprès de collectifs de femmes dans des régions très différentes, dans des secteurs d'activité très différents. Alors, ces initiatives, elles sont fragiles, elles sont de petite taille, elles sont parfois éphémères, mais elles montrent à quel point il est tout à fait possible de consommer autrement, de produire autrement. Et le point commun de toutes ces initiatives, c'est véritablement d'avoir une vision, une définition, même si c'est pas forcément conscientisé, mais en pratique, c'est ça. L'économie, c'est pas ce qui s'échange sur un marché, c'est tout l'ensemble des activités dont on a besoin pour assurer la reproduction de la vie et de manière digne. Et donc, dans un cas, ça va être des travailleuses de l'informel en Inde qui défendent leurs droits auprès de le syndicat, mais qui, en même temps, ont réussi à convaincre les syndicats que il fallait aussi s'intéresser à des infrastructures qui ne marchent pas. Et donc, il fallait aussi faire en sorte que les bus circulent, qu'il y ait des crèches. C'est prendre l'ensemble de ces questions à la fois. Ne pas dissocier production d'un côté, ce que les féministes appellent reproduction sociale de l'autre, mais s'intéresser à l'ensemble de ces questions. Voilà, c'est un collectif de vendeuses de poissons qui se bat pour lutter contre la concurrence déloyale des supermarchés qui font du surgelé, mais qui se rendent compte que pour défendre leurs étals de poissons, il faut aussi qu'elles s'organisent pour et qu'elles demandent des subventions pour pouvoir faire garder leurs enfants, pour pouvoir mettre en place une caisse de mutuelle de santé en cas de problème de santé. Bon, je pourrais multiplier les exemples, mais voilà, le point commun, c'est vraiment de penser non pas à la production d'un côté et ce que les féministes appellent la reproduction sociale, hein, toutes les tâches de personnes, de soins aux personnes dépendantes, garde d'enfants, soins aux ressources naturelles de l'autre, mais de penser ces deux choses de manière complètement intriquée. Ce que nos imaginaires occidentaux nous empêchent, parce qu'on a vraiment tendance à penser l'économique comme quelque chose de très étroit.
Une sphère indépendante.
Tout à fait. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas être le cas.
Merci beaucoup, Isabelle Guérin.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous le partagerez autour de vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille d'écouter l'épisode sur les économies féministes que j'ai enregistré à la Gaîté Lyrique avec Isabelle Guérin et Isabelle Hillenkamp. Je mets le lien en description et j'ajoute aussi celui de l'épisode sur l'économie populaire avec Emmanuel Ndion du Sénégal. Afrotopique est un podcast indépendant, vous pouvez soutenir ce projet avec un don ponctuel ou régulier, je mets le lien en description. Afrotopique est également sur Instagram et si vous souhaitez être tenu informé des dates des événements publics, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, je mets également le lien dans la description. À bientôt !